on est dans une situation chaotique, ça c'est clair. Tout le monde nous avait dit, ça y est, on a trouvé des solutions. Il y a même des clients qui nous ont demandé de faire des stocks, d'embaucher du monde, d'être prêts sur les starting blocks. Et puis en fait, actuellement, ce n'est pas encore le cas. Et je doute que ça soit le cas d'ici la fin de l'année, voire quelque part au deuxième semestre de l'année prochaine.
La chaîne logistique de l'automobile grippée, ce sous-traitant Pierre Boulet, directeur général de Novares, avait raison de s'inquiéter le mois dernier. La planète auto continuera de tourner au ralenti encore l'an prochain. Annonce de Renault, hier, 500 000 voitures ne pourront pas être produites en 2022, faute de composants électroniques. On manque de puces partout, en France, en Allemagne, où les usines ferment et rouvrent au gré des ruptures de stock et des réapprovisionnements. Il y a bien Elon Musk aux États-Unis qui, à ses heures perdues, envoie des touristes se promener dans l'espace. Dans ces usines Tesla, ils se vantent d'arriver à contourner les pénuries. On ne parle pas tout à fait des mêmes volumes de production. Les grands constructeurs, eux, n'ont plus le cœur à se retrouver dans leur grand messe traditionnel. Il n'y aura pas de mondial de l'auto à Genève l'an prochain. Pas de tapis rouge pour lancer en fanfare de nouveaux modèles. Priorité au redémarrage des usines, à la réduction des délais et à l'innovation verte. En Europe, les ventes de voitures hybrides ont dépassé les diesels au troisième trimestre. En France, les bonus écologiques sont prolongés jusqu'au 1er juillet prochain. Renouveler le parc pour s'affranchir durablement de la hausse inéluctable des prix des carburants. L'argument est servi sur un plateau en ce moment par la flambée des prix à la pompe. Encore faut-il que la production suive.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Bonjour et bienvenue dans votre magazine Écho du samedi matin, un magazine réalisé par Céline Hila, préparé par Valentin Pérez, et c'est Tiffany Battistel qui nous accompagne aujourd'hui en régie. On n'a pas fini d'en parler des incitations écologiques pour acheter des voitures plus propres alors que le coût des carburants n'en finit plus de grimper. Finalement, il n'y aura pas de baisse des taxes ni de chèque carburant, mais une indemnité inflation de 100 euros sous condition de revenus, annonce du Premier ministre cette semaine. On en débat dans un instant avec vous. Bonjour Béatrice Mathieu.
Bonjour à toutes et à tous.
Rédactrice en chef à L'Express. Et bonjour Christian Chavagneux, éditorialiste à Alternative Économique.
Bonjour.
Une réponse à la hauteur des enjeux, ces 100 euros, selon vous, en quelques mots?
Non.
Non, coûteux, dilué, politique.
On y revient dans quelques minutes. On parlait de l'automobile, reprise contrariée aussi dans l'immobilier, pas à cause des composants électroniques, mais à cause des manques de bras et de matériaux. Notre invité sera le PDG du promoteur Kaufmann & Broad, Nordin Hachemi. Nous partirons en reportage dans le quartier de La Défense, où malgré le télétravail, l'immobilier de bureau, on le verra, n'a pas dit son dernier mot. Nous irons aussi en Chine, où un des poids lourds mondiaux du secteur inquiète, Evergrande au bord de la faillite, alors que l'économie chinoise, qui ne bénéficie peut-être pas d'une reprise aussi éclatante qu'on l'a décrite ces derniers mois, montre quelques signes de faiblesse. Et bonjour Sandrine Foulon.
Bonjour Fabien.
On vous retrouve comme tous les samedis tout à l'heure à 10h05 pour votre chronique Ma vie au boulot, et on va parler salaire.
Oui, ce matin une question très simple d'Igor, peut-on gagner moins que le SMIC légal ?
À tout à l'heure, et maintenant, place au débat. On se remet un peu dans l'ambiance de cette semaine où on a beaucoup réfléchi à la hausse du prix de l'essence et aux diverses idées pour y faire face.
€1,58 le litre de gasoil en moyenne, €1,74 pour le sans-plomb 98.
Que faire contre la hausse inéluctable des prix du carburant? Le gouvernement cherche à atténuer l'addition.
Il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude. Une première option serait de jouer sur les taxes, notamment la TVA. Il y a aussi la piste d'un chèque carburant, un peu comme le chèque énergie.
Sur un litre d'essence, il y a 60 centimes environ sur la TICPE, la taxe intérieure sur les produits énergétiques.
Éric Ciotti, député LR, candidat à l'élection présidentielle.
Et sur cette taxe, on paye la TVA. Donc je propose que sur cette partie, on ne paye pas la TVA, ce qui aboutirait à diminuer de 10 à 15 centimes par litre le prix du carburant.
Le prix de l'essence, c'est directement corrélé au prix du baril de pétrole.
Philippe Chalmin, professeur d'histoire économique à Paris Dauphine.
Celui-ci est actuellement au-dessus de $85. Toucher à la fiscalité n'aurait pas énormément de sens, étant donné les coûts que ça représente. Un centime de moins de fiscalité à la pompe, c'est 500 millions d'euros.
Je ne crois pas que ce soit la bonne option.
Bruno Le Maire.
D'abord parce que ça coûte très cher.
Ministre de l'économie.
En deuxième lieu, c'est injuste. C'est-à-dire que celui qui prend un gros 4x4 très motorisé qui fonctionne au diesel recevra la même compensation financière de l'État qu'une aide-soignante qui est obligée de prendre sa Clio. Et en troisième lieu, c'est une subvention à des carburants fossiles. Pour toutes ces raisons, je suis davantage favorable à un dispositif comme le chèque carburant.
Mais le chèque carburant, c'est comme le chèque énergie.
Fabien Roussel, secrétaire national du Parti communiste.
C'est ciblé à un certain nombre de personnes et on va en laisser plein de côté.
Candidat à l'élection présidentielle.
Le couple d'enseignants, l'hôtesse de caisse qui perçoit 1200, 1300 euros net par mois, elle n'aura pas le droit à ce chèque carburant. La nation, l'État, doit pouvoir protéger tous ses citoyens, tous.
La décision que nous avons prise...
Jean Castex, Premier ministre.
C'est effectuer une décision qui se veut la plus juste, la plus efficace, surtout par rapport à cette situation. C'est-à-dire que nous allons décider d'une sorte d'indemnité inflation de 100 euros qui sera versée aux Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. C'est une indemnité classe moyenne.
Après le chèque énergie, après le bouclier tarifaire, voici donc l'indemnité inflation. On a beaucoup cheminé hein, cette semaine, on vient de l'entendre, entre plusieurs pistes. Baisse de taxes, chèque carburant, pour finalement atterrir sur cette idée qui vise à s'attaquer à l'inflation globale qui dépasse le seul secteur de l'énergie. 100 euros donc pour les Français qui gagnent moins de 2000 euros net par mois. Christian, Béatrice, cette idée du chèque après coup, on constate une hausse et on y répond, vous semble-t-elle être une bonne démarche? Vous nous avez déjà donné un premier indice tout à l'heure.
Alors, on risque peut-être d'être d'accord avec Christian ce matin. Alors moi, je dirais trois choses. Elle est coûteuse, diluée, politique. Coûteuse, effectivement, c'est les 3 milliards. Mais finalement, c'est pas tant le problème que ça, qu'elle soit coûteuse. Diluée, oui, parce que c'est 38 millions de Français. Et politique, c'est parce qu'elle ne résout rien. Si on revient au premier point, je pense qu'il y a sans doute un problème aussi de chiffrage. Quand on regarde, alors effectivement, c'est plus un chèque carburant. Malgré tout, tout le monde pense au carburant en ce moment. Quand on regarde l'augmentation des prix de l'essence...
L'idée, c'est d'élargir.
Voilà, c'est ça. Mais bon... Tout le monde pense à l'essence en ce moment. Si on regarde l'augmentation des prix sur un an, et si on applique cette augmentation au budget carburant des ménages, ça fait que, grosso modo, en année pleine, comme disent les économistes, on a un surcoût de dépenses carburant qui approche les 300 euros. Donc on n'est pas du tout dans l'ampleur de ce qui est proposé, les 100 euros. Donc là, si c'était compensé, pouf, ça tape à côté. Dilué, évidemment, puisque là, quasiment 3 salariés sur 4 dans le secteur privé vont la toucher. On aurait sans doute préféré cibler les plus modestes et ceux vraiment qui sont frappés par ça. Et on donne un exemple très simple, c'est-à-dire que c'est Bruno Le Maire qui disait, mais une femme seule qui vit à la campagne et qui prend sa voiture tous les jours pour amener ses gamins à l'école et qui gagne plus de 2000 euros, ben ne touchera rien. Et deux retraités, j'ai rien contre les retraités, évidemment, mais qui vivent à Paris, qui sont propriétaires de leur logement et qui ont le pass Navigo, ben ils toucheront, et qui gagnent moins de 2000 euros, toucheront deux fois 100 euros. C'est profondément injuste.
Il aurait fallu davantage cibler, Christian ?
Je suis entièrement d'accord avec Béatrice. Si un jour il y a un poste qui se libère à l'Express, j'ai candidaté parce que là, on est vraiment sur la même ligne. On a l'habitude de ce genre de mesures. Effet de seuil, 2000 euros, évidemment, vous êtes à 2100 euros et vous avez des gros problèmes, vous devez vous déplacer, vous n'aurez rien du tout.
Il y aura toujours un effet de seuil.
Il y aura toujours un effet de seuil. Donc, ce type de mesure, il y a toujours un effet de seuil. Donc, quand vous dites que la moitié des gens vont toucher, vous faites une moitié de mécontents. Et puis, vous dites, oh, regardez, c'est toujours les petits. Vous renforcez ce discours, ce sont des assistés, ceux qui sont en dessous de nous. C'est
pas
bon pour la
démocratie. Est-ce que prendre le salaire médian, c'est quand même pas... un critère,
Non, mais Béatrice l'a dit.
Représenter quelque chose.
Béatrice l'a dit. On a complètement dilué et ça fonctionne pas. Il y a l'effet d'aubaine. Béatrice l'a dit aussi. Vous avez pas de voiture et vous avez quelques actions placées. Vous avez eu la chance d'hériter d'un appartement. Vous touchez des loyers. Vous avez moins de 2000 et pourtant vous allez toucher. Et puis il y a ce qu'on appelle l'effet nul, c'est-à-dire Béatrice l'a dit aussi. Moi je l'appelle ça l'effet nul, c'est-à-dire que si vous roulez beaucoup, les 100 euros ça va pas du tout compenser ce que ça vous a coûté. Et si les prix continuent à monter, fait quoi? On refait un chèque? La croissance chinoise est en train de ralentir. Peut-être que la croissance européenne va ralentir. Si ça baisse, on fourre de l'argent. Et puis on nous dit quand même tous les jours qu'il faut se passer des énergies fossiles. Là, on a le prix de l'essence qui monte. Et au premier coup, ce fameux signal prix, on le met de côté. Et on dit, allez-y, continuez comme avant. Et comme l'a dit le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dans un commentaire très élogieux vis-à-vis de son premier ministre. Et en plus, vous encouragez ceux qui ont des mauvaises habitudes avec des gros diesels.
Est-ce qu'il faut compartimenter alors? Est-ce qu'il faut faire l'énergie? Est-ce qu'il faut faire l'alimentaire? Est-ce qu'il faut faire à chaque fois, pour chaque secteur dans lequel il y a une inflation, une aide ponctuelle?
Non, pas du tout. C'est ubuesque. La politique du chèque, on y reviendra peut-être après, mais elle est court-termiste, ubuesque et politique. Non, là, sur la question énergétique, parce que ce qu'on vit là, c'est une sorte de tour de chauffe de ce qu'on va vivre à moyen et long terme, notamment sur les prix d'énergie. Donc on ne va pas faire des chèques à n'en plus finir. Il faut, un, cibler les plus modestes et évidemment les accompagner parce qu'il ne peut pas y avoir de justice sociale, de transition climatique réussie sans justice sociale. Donc évidemment les plus modestes et ceux qui sont frappés en priorité. Et puis après, il faut investir massivement. Donc sur ces 3,8, on aurait pu faire 1,5 milliard sur peut-être la même catégorie que ceux qui touchent le chèque énergie, en fait, qui en ciblant vraiment ceux qui sont les plus touchés. Et puis investir, il faut investir, faire encore plus que ce qu'on fait. Donc si on fait un petit rapide calcul sur ce que le gouvernement la met sur la table entre le chèque énergie, disons la rallonge du chèque énergie, ce chèque inflation, et puis ce qui s'est dans le bouclier tarifaire sur le gaz et l'électricité, c'est plus de 10 milliards d'euros. 10 milliards, c'est un tiers du plan d'investissement qui a été présenté il y a une semaine. C'est inimaginable.
Ce que vous nous dites, c'est que l'inflation, c'est peut-être un phénomène auquel il va falloir s'habituer. On n'est pas juste dans un coup de chaud.
Attendez, il y a le court terme et il y a le moyen long terme. À court terme, là, on voit bien que c'est de l'inflation importée. C'est pas le fonctionnement de l'économie française. Il se passe des choses sur les marchés internationaux. Donc
à la production
de pétrole, ça se répercute. Donc il faut réduire notre dépendance à l'inflation importée. En 1990, le pétrole, c'était 38% de notre consommation d'énergie primaire. C'est le qu'on prend vraiment. En 2010, 30%. 38-30%, on se dit super. Sauf que depuis 2010, on est autour de 28-29%. C'est 28,1% en 2020. Donc on a arrêté depuis 10 ans, de réduire notre dépendance au pétrole importé. Qui utilise beaucoup de pétrole? Les transports, c'est les trois quarts de la consommation de pétrole. Qui dans les transports? Le transport routier. Et quand on fait le plein, 78% du carburant, c'est du gazole. Bruno Le Maire, il a raison. Quand vous envoyez un chèque énergie, enfin un chèque essence, vous envoyez un chèque aux propriétaires de voitures de gazole. Et ça a augmenté en 2020. La proportion du gazole par rapport au sans-plomb. Alors qu'on s'est tapé deux confinements, un couvre-feu, etc., etc., du télétravail. Comment ça se fait que ça a augmenté? C'est le transport de marchandises. Voilà la clé, en fait. 90% des marchandises dans ce pays transitent par la route. Quand le gouvernement dit qu'il aide les particuliers, non, le gouvernement, avec ce chèque, va aider le transport polluant de marchandises en France.
Avant que l'inflation reparte si fort, on ne s'était pas habitué, notamment sous l'effet des campagnes de communication, de promotion dans la grande distribution, sur l'alimentaire, à des prix durablement bas ou qu'on essayait de maintenir les plus bas possibles envers et contre tout. Est-ce qu'on bascule de modèle, Béatrice?
Si, bien sûr, mais il n'y a pas que l'alimentaire. Il y a l'électronique, il y a les vêtements qu'on a sur nous, évidemment. Mais ça dure depuis finalement cette grande désinflation, ces 20-30 ans. C'est la mondialisation en fait qu'on a connue, qui avec ce réservoir incroyable de main-d'œuvre, très très bon marché, notamment en Asie, et l'arrivée de la Chine dans le commerce mondial, qui a fait un afflux de produits très très bon marché en Europe et donc et en France. Et le corollaire de ça, ça a été la désindustrialisation massive. Donc on s'en est habitué parce qu'on avait ces produits très bon marché qui soulageaient le pouvoir d'achat, sans voir que par ailleurs ça détruisait énormément d'emplois derrière. Cette phase là, on l'a nié pendant très longtemps, voilà. Et elle nous a sauté à la figure pendant la pandémie. Cette phase-là de la mondialisation est peut-être, je pense, en train de se refermer. Les chaînes de production et les chaînes d'approvisionnement seront à l'avenir sans doute moins éclatées. On aura moins de trucs qui viendront.
Ça veut dire qu'on en paiera le prix aussi.
Et ça veut dire qu'on en paiera le prix. Et il y a un effet carbone qui touchera pas simplement le prix de l'énergie, mais qui touchera tous les produits manufacturés. La transition climatique, elle va toucher toutes les industries, pas seulement les industries énergétique. Et oui. Donc ça, cet impact carbone sur l'inflation, eh bien, il se fera sentir à moyen terme.
On est en train de changer de modèle économique. Le modèle économique des 50 dernières années est en train de basculer complètement. Le modèle économique des 50 dernières années, c'était la course au coût bas. Et donc la course au prix bas. Et je suis entièrement d'accord, encore une fois, avec ce que vient de dire Béatrice. Il y avait quatre éléments importants qui tiraient vers les coûts bas. La délocalisation et le libre-échange. Et aujourd'hui, je pense qu'on vit effectivement une mondialisation de moindre intensité. Il y a moins d'investissements directs à l'étranger des multinationales. C'est une tendance structurelle et les chiffres du premier semestre 2020 le montrent. Il y a des achats d'entreprises transfrontières, mais les nouveaux investissements, ça s'appelle le Greenfield, vraiment sur le terrain, il y en a moins. On nous parle beaucoup d'autonomie stratégique, de taxes carbone aux frontières. Donc je pense aussi, comme Béatrice, que les chaînes de valeur mondiales vont se rétrécir et que cet effet-là, on ne l'aura plus. On a une déréglementation du marché du travail avec des statuts et des rémunérations précaires. Aujourd'hui, on est dans une phase de hausse des salaires. Même l'hôtellerie-restauration nous dit qu'on peut aller jusqu'à plus 9%. Incroyable. Les métiers invisibles, mais essentiels, ont montré la pandémie. Maintenant, les gens veulent récupérer les salaires et ils ont raison. Le recours prioritaire aux énergies fossiles, comme le pétrole, qui était peu cher, en fait. Mmh. Avec les ENR, on va sauver la planète et j'espère le genre humain sur la planète, mais ce sera plus cher. Et l'utilisation abondante des paradis fiscaux, qui a réduit le coût fiscal. Et maintenant, enfin, les États s'y attaquent. Donc tout ça va faire que c'était le bonheur du consommateur, peut-être, mais au détriment de son bien-être. Alors, destruction d'emplois, statut précaire, destruction de la planète, perte de services publics. On va changer. Enfin, les firmes vont être réencastrées dans le social et dans le politique. Ça coûte plus cher. Oui, il faudra protéger les plus démunis.
Donc qu'est-ce qu'on fait face au coût haut, donc au prix haut? On augmente les salaires, on augmente le
SMIC. Oui, il faut augmenter les revenus. On va pas faire des chèques à vitam et tam. Si j'ai raison et si Béatrice a raison et que on est face à une transformation structurelle, on va pas faire des chèques à tous les coups. Donc il faut augmenter les revenus s'il y a des problèmes de pouvoir d'achat. On peut faire de la redistribution. C'est-à-dire qu'on peut constater qu'il y a des inégalités salariales, puis dire, bah, avec les impôts, on va compenser ça. Ça veut dire plus de recettes fiscales. Ça veut pas forcément dire augmenter les impôts. Peut-être élargir les bases fiscales vers ce qui est peu taxé. L'héritage, la fortune, les gains en capital. On a appris encore cette semaine par nos confrères du Monde et ce consortium de 16 journaux que 1,7 milliard de recettes fiscales étaient perdues à cause de dividendes non déclarés. Peut-être qu'il faut augmenter les salaires, organiser les conventions collectives et les négociations collectives pour passer aux 32 heures payées 35 et puis augmenter le SMIC et les minima sociaux. Là, je sens que Béatrice ne va pas être d'accord.
Béatrice,
je viens de perdre mon job à l'Express.
Les salaires, là, et la réponse structurelle.
Alors, oui, non, mais évidemment, il faut augmenter les salaires. Alors, c'est le concours Lépine en ce moment des propositions. Alors, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Christian, c'est les 32 heures payées 35. Dans un monde où on manque de bras, où on va voir les chefs d'entreprise, ils vous disent, mais on n'arrive pas à recruter, ça paraît surréaliste. Et dernier point, l'augmentation du SMIC est sans doute une mauvaise idée aussi, parce que ça fait un écrasement des rémunérations autour du salaire minimum, c'est pas ce qu'il faut. Moi, je plaide vraiment pour que l'État pousse aux accords de branche, et ça commence à se faire, qu'il faut que les accords de branche soient vraiment incités, quitte à agiter la carotte du bâton des aides dans certains secteurs, et ça peut porter ses fruits.
Merci à vous deux, merci Christian, merci Béatrice. C'est l'heure justement de partir en Chine, où l'inflation des prix à la production explique peut-être une partie du débat qu'on vient d'avoir, une partie de l'inflation des prix à la consommation chinoise. Et nous, l'économie chinoise sous surveillance.
CNN. 经济成长趋缓，中国 Q3 GDP 跌至 4.9%。 今天发布的数据显示，中国今年第三季 GDP 同比增加了 4.9%。
Nous voici donc en Chine, c'est la magie du magazine Echo où nous retrouvons notre correspondante permanente Dominique André. Bonjour Dominique.
Bonjour Fabien.
On a beaucoup dit que l'économie chinoise avait redémarré très fort en sortie de crise sanitaire. Il semblerait que l'euphorie retombe.
Eh bien, avec un taux de 4,9% au troisième trimestre, le PIB a progressé à un rythme plus faible que prévu. Pour vous donner un ordre de comparaison, sur la période de janvier à mars cette année, la Chine avait affiché une croissance de plus de 18% et de 7,9% au deuxième trimestre sur un an. Les causes de l'essoufflement sont bien identifiées. Les usines sont pénalisées par des coupures d'électricité. L'électricité est rationnée en Chine à la suite de l'augmentation rapide du coût des matières premières, et notamment du charbon, qui alimente la plupart des centrales du pays qui font tourner les usines. Par ailleurs, la consommation est restée faible. Elle a été ralentie au niveau des ventes de détail cet été à la suite de la réapparition de foyers épidémiques de Covid-19. Alors, les perspectives s'annoncent difficiles pour le quatrième trimestre, d'autant qu'un autre secteur, l'immobilier, est secoué lui aussi par les difficultés du géant Evergrande, ultra endetté, qui a évité de justesse hier un défaut de paiement, mais la situation reste incertaine.
Justement, Evergrande fait figure de bombe à retardement chez vous. On parle de risques systémiques en Chine.
La Banque centrale juge les risques de contagion au système financier gérable, mais c'est un secteur entier qui est malade. D'autres groupes immobiliers comme Scénic et Fantasia peinent aussi à rembourser leurs emprunts, pour ne pas dire qu'ils sont incapables de le faire. On voit bien que la menace d'une contagion, au moins dans le secteur immobilier, est en train de se réaliser. En tout cas, des signes apparaissent. Les prochains mois ne s'annoncent pas simples, c'est sûr, car le secteur de l'immobilier est capital pour la croissance chinoise.
Merci beaucoup à vous, Dominique André, avec nous depuis Pékin. Evergrande, une sacrée secousse dans le monde de l'immobilier, puisque notre invité est déjà installé en studio, nous allons lui demander son avis. Bonjour Nordine Hachemi.
Bonjour.
Vous êtes le PDG d'un de nos champions français de l'immobilier, le promoteur Kaufmann & Broad. On entend parler de risques de faillite en cascade en Chine. Quel regard, vous, en tant que professionnel de l'immobilier, portez-vous sur les difficultés d'Evergrande ?
Alors le modèle qui est pratiqué en Chine de développement immobilier absolument rien à voir avec celui qui existe en France. C'est le modèle qui prévalait dans les années 90. On a eu une crise et il y a eu beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place et notamment tout un système de mise en place de ce qu'on appelle garantie de GFA, de garantie qui garantissent à nos clients l'achèvement, et ce qui fait qu'il ne peut pas avoir d'opération comme Evergrande en France.
Donc c'est pas toute la planète de l'immobilier, vous estimez être à l'abri de ce genre
complètement,
de situation
de ce qui s'est passé en Chine, complètement, oui.
En France, comment qualifieriez-vous le niveau de l'activité qui repart depuis qu'on semble être sorti du plus dur d'un point de vue sanitaire, mais qui se heurte aussi à quelques difficultés, notamment d'approvisionnement et de main-d'œuvre?
Alors aujourd'hui, la demande est toujours très soutenue. Elle est soutenue à la fois par les particuliers en tant que au niveau de l'accession, c'est-à-dire des particuliers qui achètent pour se loger, des particuliers qui souhaitent investir pour mettre sur le marché locatif, les bailleurs sociaux bien évidemment, et surtout une grande nouveauté depuis 3 ans, c'est qu'on voit le retour des institutionnels qui réinvestissent à nouveau dans le résidentiel, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. C'était ce qui se pratiquait pareil autrefois. Et donc, le vrai problème, c'est un manque de permis de construire qui fait qu'on peut pas satisfaire la demande aujourd'hui. Et ça a un impact sur la hausse des coûts des terrains en particulier. Et donc, avant même la hausse des coûts de construction, on a une inflation assez forte sur les coûts de terrain.
Alors, il y a une autre activité sur laquelle vous êtes très présent chez Kaufmann & Broad, c'est l'immobilier de bureau. On l'a peut-être enterré un peu trop vite, le bon vieux bureau où on retrouve ses collègues en présentiel, comme on dit maintenant. Certes, les télétravailleurs ont pris leurs habitudes chez eux. Il y aurait même un gisement d'économie considérable à faire sur le foncier pour les entreprises. Peut-être, mais on continue à construire. Les projets déjà lancés vont bon train. Direction la Défense. On met nos casques, on enfile nos équipements de chantier et on suit le micro de notre reporter Manuel Ruffez.
On est sur l'esplanade de la Défense au Carré Michelet. On va aller visiter un chantier. On entend d'ailleurs, peut-être derrière moi, déjà les machines. On va aller visiter un chantier tout à fait particulier, un chantier de bureaux. Une tour immense qui va accueillir des milliers de bureaux. On va aller voir un peu comment ça se présente.
Alors, je suis Philippe Chiambaretta, je suis architecte, ingénieur et le fondateur de l'agence PCA Stream.
Qu'est-ce qu'on a là, sous les yeux là ?
On est sur le chantier des fondations de la tour Link.
Donc effectivement, on voit les grues,
Voilà, quatre grues là qui sont en mouvement. Donc on est en train de creuser. On a déjà démoli le bâtiment qui existait précédemment. Il nous a fallu presque 6 mois pour le déconstruire et arriver, donc retrouver le niveau du sol. Et là, on est en train de fonder la tour. On va descendre jusqu'à 60 mètres avec des pieux qui vont aller s'enraciner très profondément parce que c'est une tour qui est très lourde. Couler du béton pour avoir des fondations, des micropieux et ensuite construire le radier qui sera donc le socle sur lequel la tour va s'élever.
Mais là, vous construisez des bureaux.
Alors là, on construit, oui, un immeuble de bureaux, effectivement, dans une tour que l'on a conçue à l'origine sans connaître le destinataire final. Donc c'est un immeuble de bureaux, effectivement.
Parce que c'est plus à la mode, les bureaux, là, non ?
Je pense pas qu'on puisse parler de mode. On est dans un monde dans lequel l'économie se produit par de l'intelligence collective. Et l'intelligence collective, ça veut dire travailler ensemble, être réunis. Et ça, ça nécessite des espaces partagés.
Je vous propose qu'on poursuive cette conversation un peu plus au calme, peut-être un peu plus à l'abri du vent aussi, parce qu'on est sur la passerelle au-dessus du chantier.
Avec grand plaisir, pas de souci.
Allons-y.
Ce sera donc la plus haute tour de France quand elle sera terminée en 2025. Le nouveau siège de Total Energy, symbole rutilant d'un immobilier du bureau qui n'a pas dit son dernier mot. On retrouve Manuel Ruffez avec l'architecte et ingénieur Philippe Chiambaretta. Selon lui, le télétravail n'a pas eu la peau du présentiel.
Très concrètement, aujourd'hui, un immeuble de bureau, ça doit être d'abord un lieu qui attire les talents, qui donne envie de venir travailler. Donc c'était vrai avant le Covid, c'est encore plus aujourd'hui. Et donc ça veut dire, dans son architecture, un bâtiment qui va exprimer une certaine forme d'audace, qui va avoir un effet un peu attachant, parce qu'il va avoir une singularité, une force, pas un standard anonyme comme un produit lambda. C'est aussi un lieu dans lequel on va avoir une proportion d'espace commun, de place du village, de Lyon, où on travaille de manière informelle, on se rencontre. Ce qui était la machine à café avant, qui était presque une anecdote, va devenir en fait le cœur de la raison d'être du lieu du bureau dans lequel on y va pour se retrouver aujourd'hui. Encore plus vrai après le Covid, c'est le être ensemble et travailler ensemble qui est essentiel. Et puis enfin aussi, autre évolution, c'est ce besoin d'espace extérieur. Le bureau comme une espèce de thermos fermé, climatisé, un air artificiel, ça plus personne n'en veut. Donc c'est ouvert à la nature, ouvert à l'espace extérieur, ouvert à la ville.
Donc quand vous construisez des espaces extérieurs, des lieux de rencontre, on ne vous dit pas c'est de l'espace perdu, c'est du mètre carré qui n'est pas rentabilisé.
Non, parce que bon, déjà on ne prend pas ces surfaces sur des surfaces qui auraient pu être des espaces de bureau. On vient créer des balcons, des terrasses, des rooftops. C'est de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et du plaisir aussi. Voilà. Le plaisir est devenu quelque chose qui n'est plus tabou. Aller sur une terrasse, c'était quelque chose sur... Les managers pensaient que laisser ça, faire ça aux salariés, on allait glander. Or, effectivement, un peu la culture qui vient de la Silicon Valley, qui a été de dire, pour être créatif, regarder les sièges sociaux des GAFA, c'est beaucoup d'air de jeu, d'espace extérieur. On n'a pas besoin d'être enfermé face à un écran d'ordinateur pour être inventif et productif.
Alors oui, l'immobilier de bureau redémarre, mais c'est encore une économie en convalescence. Pour le mesurer, il suffit de se pencher sur les chiffres d'Île-de-France, qui représentent 85% du marché national. Nous sommes à Levallois-Perret, aux portes de Paris, au siège de la société de conseil en immobilier Colliers, car son président, Antoine Derville, est également président de l'Observatoire régional de l'immobilier d'entreprise.
On analyse deux gros marchés, qui sont le marché du locatif, donc combien de mètres carrés sont loués chaque année par des entreprises utilisatrices. Et on a une moyenne des 10 dernières années avant Covid qui est de l'ordre de 2,3 millions de mètres carrés qui sont loués chaque année. Ces mètres carrés, évidemment, ont été particulièrement frappés par la crise du Covid, puisque en 2020, on est tombé à 1 400 000 mètres carrés et qu'on attend pour l'année 2021 aux alentours d'un 1 600 000, 1 700 000 mètres carrés. Donc, vous voyez, bien en deçà de la moyenne des 10 dernières années, une chute en termes de volume de consommation assez significative. Et en termes d'investissement, pour vous donner aussi un ordre d'idée, les investissements en 2019 en immobilier d'entreprise s'élevaient à peu près à 40 milliards d'euros. En 2021, on sera aux alentours de 20 milliards. Donc ça a baissé de moitié en 2 ans. Vous voyez que c'est une industrie qui est quand même sérieusement pâtie de cette crise du Covid, même si elle va se remettre et elle va se repositionner dans les mois qui viennent.
On quitte Levallois, direction le 8e arrondissement de Paris, à 2 pas de la place de l'Étoile. Là aussi, rendez-vous dans un beau bâtiment, le Washington Plaza, siège parisien de SFL, une société foncière immobilière.
Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Bien, et vous ?
Très bien, merci.
France Inter.
Enchantée, je vous emmène.
Allons-y.
Super, on va passer par là.
On passe par là.
Tous les ans, depuis 8 ans, SFL avec l'IFOP publie un baromètre d'attente des salariés vis-à-vis de leur bureau et espace de travail. Le dernier, tout récent, il date d'il y a 3 jours et il est riche d'enseignements. Aude Grant est la directrice générale adjointe de SFL.
Ouais, Washington Plaza, c'est un de nos plus gros immeubles. Il n'y a que des bureaux, on a 12 ou 13 locataires différents.
On a un resto, un super café, je vous emmène dans notre showroom qui est sympa. On a une super salle de sport, un auditorium.
Incroyable. Notre...
En fait, ouais. Nous, on est propriétaire des lieux et locataire, parce que nos bureaux sont là. Du coup, c'est celui sur lequel on fait tous nos tests, nos services et tout ça. Donc voilà, je vous emmène juste là. Et là, hop. Ça descend au fitness. Alors, nous avons une bonne nouvelle, le bureau continue à attirer, et notamment les jeunes. Ce qu'on a pu mesurer lors de ce sondage, c'est que c'est probablement les jeunes qui ont le plus souffert, en tout cas professionnellement, des confinements. Ils se disent plus isolés, plus sujets au stress que leurs aînés. Donc, naturellement, ce sont ceux qui ont eu le plus envie de retourner sur leur lieu de travail.
Qu'est-ce qui les attire dans le bureau ?
La première raison pour se rendre au travail, notamment chez les jeunes, c'est la vie sociale entre collègues, pour plus de 60% d'entre eux. Plus que de travailler en équipe ou plus que de travailler seul. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est le lieu de la culture d'entreprise. Donc on voit clairement que sans lieu physique pour le faire, évidemment, ce besoin ne peut pas être rempli.
Ce qui ressort aussi de cette étude, c'est qu'ils sont plus exigeants du coup.
Ça, c'est une des conclusions fortes de cette étude, c'est effectivement l'augmentation des exigences des salariés et notamment des jeunes vis-à-vis de leur lieu de travail. Alors nous, on dit qu'il y a trois cercles concentriques d'exigences, la localisation et l'environnement général de leur lieu de travail. On pense au quartier, à l'accessibilité, à la capacité à aller faire des courses, vivre sa vie sociale, aller voir un médecin à l'heure du déjeuner. Clairement, les jeunes regardent ça de près quand il s'agit de qualifier la qualité de leur lieu de travail. Le deuxième, c'est évidemment le confort, l'acoustique, la lumière, l'ergonomie de leur lieu de travail. C'est aussi les services, évidemment la restauration. En France, ça reste le service le plus plébiscité, mais il y a aussi le sport, le fait de pouvoir se réunir dans des auditoriums, des amphithéâtres, etc. Et enfin, je dirais cerise sur le gâteau, c'est la façon dont les bureaux leur permettent de vivre leurs engagements sociétaux, écologiques, environnementaux. Clairement, cette génération, elle va pousser les entreprises à aller plus loin dans ce domaine, que ce soit évidemment les déchets, les consommations, mais aussi comment on peut s'investir dans des causes au travers de son entreprise. Ces éléments-là deviennent en fait des critères pour les jeunes pour s'engager dans telle ou telle entreprise.
Eh bien, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Le bureau n'est donc pas mort, mais à l'évidence, il doit se réinventer. Entre coworking, espace de travail partagé, télétravail à son domicile ou flex office quand les salariés n'ont plus de bureau attitré, c'est aujourd'hui une question de coût pour les entreprises. Ingrid Napi est professeure à l'ESSEC, titulaire d'une chaire de recherche dédiée aux espaces de travail.
La donnée importante à comprendre, c'est que c'est le deuxième poste de dépense après les salaires. Le coût immobilier est considérable dans l'entreprise. Un poste de travail, ça tourne en moyenne autour de 15 000 euros par an. Vous imaginez bien que si on peut diviser cette dépense par deux en partageant le poste, c'est bien plus attractif pour l'entreprise. Alors pourquoi aujourd'hui on parle beaucoup de flex office? C'est que avec un jour de télétravail, voire deux, eh bien de l'espace va être libéré, donc deux jours par semaine. Donc on ne peut plus concevoir pour les entreprises pour lesquelles le coût immobilier est important de payer un poste de travail entier. Donc, l'équation, c'est aujourd'hui télétravail plus flex office. Donc non, le bureau n'est pas mort, c'est toujours une classe d'actifs très intéressante pour les investisseurs. Et maintenant, si on s'intéresse aux entreprises, bien les entreprises, elles n'ont pas rompu leur beau comme on pensait. On disait, bon, les entreprises ont déménagé, les entreprises ont arrêté d'occuper leur bureau. Non, elles essayent actuellement de trouver des solutions d'aménagement des espaces pour concilier cette équation économique du flex et du coût du poste de travail. Donc, on a des solutions dites hybrides qui vont être testées. À mon avis, on va encore avoir une bonne année d'échange. On va voir que tous les salariés ne sont pas prêts à travailler en flex office. D'ailleurs, les travaux le montrent, la productivité est beaucoup moins importante. Ça correspond à certains types de métiers, ça correspond à un certain type de tâches, ça ne correspond pas à tout le monde. Or, l'équation actuellement, elle est pour tout le monde. C'est ça le problème. Et on voit bien que dans d'autres entreprises qui sont implantées dans villes moyennes ou même en métropole, la question du flex ne se pose pas systématiquement.
L'immobilier de bureau n'a pas dit son dernier mot, c'était un reportage de Manuel Ruffez.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10. On n'arrête pas l'écho. Fabien Cazot.
Rebonjour Nordine Hachemi. Vous êtes donc président, directeur général de Kaufmann & Broad, qui, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, est un groupe 100% français et même un de nos plus gros promoteurs immobiliers. L'immobilier de bureau, c'est une grosse activité pour vous ?
Oui, on a un portefeuille. Alors, c'est une activité qui est moins récurrente que le logement, puisque ça, c'est quelques gros projets que l'on fait par an. mais on a un portefeuille de plus d'un milliard d'euros actuellement en développement ou en cours de construction, donc c'est une activité importante.
Le télétravail n'a pas tué la vie de bureau, vous le constatez vous aussi à votre niveau ?
Alors les tendances qu'on constate aujourd'hui sur le télétravail sont des tendances lourdes qu'on démarrait bien avant, encore une fois, la crise sanitaire qui n'a été, à mes yeux en tout cas, qu'un accélérateur de tendances de fond qui étaient déjà présentes sur le marché. Alors comme nous, ce que l'on construit, c'est justement, on construit pas le parc existant, il est là. Donc nous, on construit à la marge. La construction de bureaux neufs, c'est un fragment du parc total. Et donc, par définition, ce qu'on construit vient toujours s'adapter aux tendances du moment. Et donc, on est totalement en phase avec les tendances du moment, bien avant qu'elles soient révélées.
Et dans les bureaux neufs que vous construisez, il y a autant de postes de travail que de salariés ?
Non, alors toujours pareil, bien avant la crise sanitaire, on était déjà sur des ratios de 0,6-0,7 postes qui ont été évoqués dans l'interview de postes de travail par collaborateur.
C'est-à-dire en gros 2 postes de travail pour 3 salariés, donc on inclut déjà la...
Oui, ou 2 pour 1 à peu près si vous êtes à 0,5, donc c'est un peu... Oui, c'est ça, 2 pour 3, oui. Et donc ça, cette tendance, elle était déjà bien ancrée en milieu très urbain, moins effectivement dans les villes moyennes, mais pour des raisons plutôt de transport et de mode de travail.
On parlait tout à l'heure du rythme auquel s'effectue la reprise dans l'immobilier, alors au sens plus général, des bureaux, des logements. Quelle leçon le promoteur que vous êtes tire justement de cette période de crise sanitaire qu'on vient de vivre pour le secteur du logement ? Qu'est-ce qui a changé selon vous dans le rapport des Français à leur logement ?
Alors il y a eu une redécouverte, nous on l'attendait parce que là aussi on y travaillait depuis plusieurs années. Il y a eu une redécouverte sur la partie logement des villes moyennes. D'un seul coup, il y a eu effectivement sur le télétravail qui était en place déjà dans les grandes entreprises, qui était déjà bien ancré. Ce télétravail était découvert par un nombre plus important d'entreprises. Et puis du coup, une manière de voir la mobilité, les déplacements de manière un peu différente. Et il y a eu cette révélation autour des villes de taille moyenne. Les villes cathédrales, ce qu'on appelle c'est Reims, Chartres, c'est ou les villes TGV autrefois, mais c'est un peu moins sympathique comme nom. Mais là, on découvre finalement qu'on peut avoir un environnement, une qualité de vie qui n'a rien à envier à un arrondissement parisien. Si je prends l'exemple de Reims, vous avez un opéra, vous avez un théâtre, vous avez une vie de quartier qui est tout à fait équivalente à une vie d'arrondissement, sauf que le rapport de prix n'a absolument rien à voir avec l'équivalent à Paris. Et ça, c'était redécouvert, et tout ça 40 minutes de Gare du Nord.
Votre activité, elle se déplace massivement vers ces villes moyennes ?
Alors, massivement, non. Mais on a,
dans quelle proportion ?
Mais on a, aujourd'hui, on doit être à peu près à 60% de notre production de logements en région et 40% en Île-de-France. Là où il y a quelques années, c'était plutôt le contraire.
Comment faire de la qualité tout en faisant de la densité dans les régions les plus denses, notamment en région parisienne ?
Alors, il n'y a pas d'opposition entre densité et qualité. Les très beaux immeubles dans lesquels on vit à Paris, c'est très dense. Paris est une ville dense, et je pense que on est tous d'accord pour dire qu'on voit des immeubles et des appartements très qualitatifs dans les immeubles haussmanniens. Donc il n'y a pas de difficulté à réconcilier les deux au niveau du logement. Après, autour du logement, on a tendance à faire un amalgame entre le logement et l'aménagement. L'aménagement, c'est pas le logement lui-même, même si effectivement, on a malheureusement un ministère du logement qui s'intéresse à l'unité de base, c'est-à-dire l'appartement, alors qu'il faudrait qu'il s'intéresse à l'aménagement. Et donc, la qualité, ça va être l'environnement qu'on va créer autour. Ça va être les services, ça va être les espaces verts, etc. Mais le logement peut être très qualitatif et est très qualitatif dans un environnement dense.
Vous trouvez qu'on ne prend pas assez en compte au niveau du gouvernement cette donnée sur l'environnement du logement, les aménagements, l'animation commerçante? C'est de ça que vous parlez ?
Oui, alors en fait le sujet, c'est que récemment on voit un ministère du logement qui fait de la production de plans, puisqu'ils ont décidé de dire voilà ce qui était un bon ou un mauvais appartement. Donc on rentre dans un niveau de micro détail, alors que le vrai sujet, ce qu'on attendrait de l'État, c'est d'avoir une politique d'aménagement, c'est-à-dire par exemple on a entendu des remarques sur le périurbain et les maisons individuelles. se poser la question, pourquoi est-ce que ces maisons pollueraient plus, par exemple? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On apporte des infrastructures, on investit sur les réseaux de transport, sur les réseaux de bornes électriques, etc. Ça, c'est ce qu'on attendrait de l'État. Parce que la production de logements, elle sera toujours locale, elle sera faite par les élus locaux.
Il faut sortir du rêve pavillonnaire, dit le ministère.
Pardon ?
Il faut sortir du rêve pavillonnaire, dit le
ministère. Je pense pas. C'est un tiers de la population. Plus de la moitié des... Il y a 36 millions de logements en France et plus de la moitié sont des maisons. Alors moi, je veux bien qu'on sorte la moitié de l'habitat en France. Bon, enfin, faut être réaliste. Il faut faire en sorte qu'il soit moins impactant au niveau environnemental. Mais il va pas disparaître, ce tissu de pavillon. Et notamment sur des investissements à long terme, des infrastructures, plutôt que de se concentrer sur la production individuelle du logement. Et je pense qu'il y a un petit problème de positionnement entre les élus qui sont des bâtisseurs, les élus locaux, et l'État qui finalement s'adresse pas aux sujets de fond qui sont des sujets qui se font dans la durée. Le logement, c'est un temps long. La durée moyenne, vous savez, d'un ministre du logement en France, c'est 18 mois. Moi, je dirige Kaufmann et Broad depuis 2013. J'ai vu 6 ministres du logement. Donc, en gros, en moyenne, un tous les 18 mois. Comment vous pouvez... Et le logement, encore une fois, il y a 36 millions de logements. On en produit à peu près 300-400 000 par an. C'est-à-dire, il faut un siècle pour renouveler le parc. Donc, on ne s'attend pas à ce que le ministre du logement agisse là-dessus. On s'attend à ce qu'il agisse sur... dans la durée, au moins d'un mandat.
Les permis de construire, justement, vous y faisiez allusion tout à l'heure, c'est une baisse que vous constatez qui se poursuit?
Alors, ça arrête de baisser, ouais. C'est pas encore reparti, et effectivement, les maires ont des grosses difficultés à gérer aujourd'hui l'attribution de permis de construire, et c'est pas qu'un refus d'attribuer les permis de construire.
Vis-à-vis de leurs concitoyens aussi.
Alors il y a la pression, mais elle a toujours existé. Alors le problème, c'est que maintenant il y a un amalgame qui est fait entre la protection de son environnement immédiat, et puis on dit c'est pour l'environnement. Or c'est pas nécessairement bon. Je disais tout à l'heure, les logements qu'on construit consomment nettement moins, voire même bientôt à énergie positive ou neutre, d'énergie que le parc existant. Donc ça contribue largement à la transition énergétique. On construit le parc de ces dernières années, ça doit être 5 à 6 fois moins de consommation d'énergie que le parc existant. Et il n'y a pas meilleure énergie renouvelable que celle qu'on ne consomme pas. Donc, on voit bien que l'opposition qui est faite contre le logement neuf sous prétexte d'environnement, c'est un mauvais débat, d'autant plus que, de toute façon, il y a 2 millions d'habitants en plus sur 10 ans, il va bien falloir les loger. On va pas inventer ça. Et donc, le problème que l'on a aujourd'hui avec les élus, c'est qu'ils voient bien la population arriver avec les besoins de services qu'il y a en face, écoles primaires, les services sociaux, les infrastructures, les transports, mais comme il y a eu une disparition de la taxe d'habitation, ils ne voient plus les revenus. Ça pose un vrai, vrai, vrai problème.
Beaucoup de sujets qui s'ajoutent effectivement à tout ce qu'on entend sur les recrutements et les matières premières. Merci beaucoup, Nordine Hachemi, d'avoir été avec nous ce matin. Et on passe à la chronique de Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine, est-il possible de gagner moins que le SMIC? C'est la question très simple que vous pose Igor.
Oui, alors vous avez raison Igor, le gouvernement a demandé à 15 branches professionnelles d'entamer des négociations pour revaloriser le salaire de toutes celles et ceux qui ont tenu le pays pendant la pandémie. Les caissières, les agents de propreté, les salariés de l'agroalimentaire, l'occasion une fois de plus de mesurer à quel point ils sont mal payés. Les travaux de l'économiste Christine Herrel et Sophie Moreau-Follenfant, la DRH de RTE, montrent que les travailleurs essentiels gagnent 30% de moins que la moyenne des Français. Et vous avez encore raison Igor, leurs conventions collectives ne sont pas généreuses. Elles peuvent même être dépassées par la hausse du SMIC. Les agents de sécurité en savent quelque chose. Les deux premiers niveaux de leur grille salariale commencent en dessous du SMIC. Ils étaient en grève mardi pour réclamer de meilleures conditions. C'est encore pire pour l'industrie agroalimentaire. Dans certaines conventions collectives, les 11 premiers niveaux de salaire ont été dépassés par la hausse du salaire minimum selon un décompte de la CFDT. Alors attention, ça ne veut pas dire que ces salariés touchent moins que les 1589 euros bruts du SMIC économique légale, même si les branches professionnelles tardent à rattraper le retard pour se mettre en conformité, les employeurs, eux, sont obligés de compenser la différence. Mais ça veut dire aussi que les salariés n'ont pas beaucoup à attendre des négociations dans ces branches-là pour espérer gagner plus que le SMIC.
Les professionnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap à l'école ont aussi fait grève cette semaine. Elles dénoncent des salaires à moins de 800 euros par mois. Peut-on considérer que c'est légal ?
Les AESH, c'est comme ça qu'on les appelle, sont payés au SMIC horaire, techniquement en tout cas. Elles peuvent gagner 750 euros pour 24 heures de boulot par semaine. Le problème est qu'elles ont surtout des activités morcelées. C'est encore plus flagrant pour les auxiliaires de vie sociale qui s'occupent de personnes âgées et handicapées. Elles sont rémunérées à l'acte, à la toilette, au repas, pas autant qu'elles passent en voiture à se déplacer pour faire une visite. Dès lors que ces larges amplitudes horaires ne sont pas prises en compte, le SMIC horaire devient en réalité très sous-évalué. C'est la situation que décrit parfaitement le film de François Ruffin et Gilles Perret, Debout les femmes. Être payé moins que le SMIC, Igor, c'est tout à fait possible. C'est évidemment le lot des indépendants, des livreurs à vélo, de tous ceux qui sont rémunérés à la tâche. Les micro-entrepreneurs perçoivent en moyenne 590 euros par mois. Ça fait grosso modo un SMIC horaire à 4 euros. Loin, très loin du tarif légal.
Merci à vous Sandrine et c'est la fin de votre magazine Écho.